Je vous souhaite à toutes et à tous, je vous souhaite à toutes et à tous. On dirait du latin, ça me connaît. Je vous souhaite à toutes et à tous, je vous souhaite à tous, à toutes et à tous. C'est bon, c'est à tous et à toutes. Bonne fête, voilà.
19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Quand j'ai reçu ça, bonsoir les amis, ça m'a fait mourir de rire, vraiment hurler de rire. Elle est devenue virale. Voilà, c'est un monsieur qui a diffusé une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et c'était drôle de la diffuser. Allez, bienvenue à vous pour la der de la semaine et la der de l'année, puisque la semaine prochaine nous ne serons pas là et on prendra quelques jours évidemment histoire de changer les idées, mais surtout histoire de faire une rentrée bien énergétique et bien pleine, puisqu'elle s'annonce effectivement extrêmement dense. Alors, au programme jusqu'à 20h, des débatteurs influenceurs qui sont avec nous, vous le savez, pour commenter et analyser leur point de vue, hein, entre eux, et commenter l'actualité, analyser, la décrypter. Coronavirus, l'Élysée qui annonce, vous savez, avec ce conseil de défense. Alors, on va s'attarder évidemment sur l'obligation vaccinale, le pass vaccinal. Comment s'en sortir dans tout ça? Évidemment, on va regarder comment non seulement sortir de tout ça, mais surtout, est-ce que ça va vous compliquer la vie? Ensuite, nous parlerons, vous savez, des restaurants, des bars, et puis tous ces lieux où on nous impose avec le pass vaccinal, eh bien, d'être accompagné d'un test négatif. Eh bien, chers amis, ça promet, je pense à la rentrée. Hein. Christiane Taubira a été testée il y a quelques jours, sa cote de popularité, vous le savez, dans le 93. Alors, nous, on tâchera de comprendre, évidemment, la candidature de Christiane Taubira. Elle n'est pas officielle, mais peut-elle faire l'affaire et bousculer cette ligne politique en pleine campagne présidentielle? Ensuite, après, nous parlerons du dernier sujet qui retient notre attention. Comment tout simplement passer de bonnes fêtes, puisque les jours, ce soir et dans les jours à venir, pour être tranquille, faire des fêtes tranquilles, avec l'inconscience tranquille. Eh bien, c'est parti. Vous le savez, à 19h, le Quoi de Neuf de façon exceptionnelle, alors que c'est le mercredi, le vendredi avec Maître Fabrice Divisio. À 19h30, c'est Michel Taube. Et puis vous aussi au 01 53 48 3000. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, c'est parti pour le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf.
Exceptionnellement, ce vendredi, nous aurons le Quoi de Neuf de Maître Fabrice Divisio. Bonjour, mon cher Maître.
Bonjour Abdel.
Comment ça va? Vous allez bien?
Ben écoutez, ça va. À quelques jours du Conseil de défense, ça va.
Absolument. Alors vous avez décidé de consacrer votre signature justement autour des fêtes, certainement. On vous écoute, à vous la parole pour le Quoi de Neuf, votre Quoi de Neuf et la carte blanche.
Mon cher Abdel, ce soir, pour être très honnête, je n'ai pas très envie de pousser un coup de gueule. Ce soir, l'heure n'est pas à gueuler, mais à aider, tout simplement. L'heure n'est pas au coup de gueule, mais au coup de main. Les coups de main à tous ceux qui, en ces temps de Noël, ont la boule au ventre, ont le cœur et la gorge noués, ayant pris de plein fouet les annonces du gouvernement probablement le plus cynique au monde. Dans quelques jours, 6 millions de Français vont se retrouver exclus de la vie en société, vont se retrouver relégués au rang de sous-citoyens, privés du droit de voyager, de se cultiver, de se rassembler au son du bienfait pour eux, égoïste, assassin. Leur tort, avoir désobéi au prince, avoir désobéi aux injonctions d'un gouvernement dont la parole ne vaut pourtant plus que quelques heures. Ils ont tout accepté, ils ont tout supporté, ils ont érigé la prudence au même rang que le courage, ont été soumis à test, puis retest et re-retest, 48 heures, non, 72, puis finalement 24. Mais finalement, ce n'était pas suffisant. Ils sont coupables. Coupables de résister et coupables d'exister même. Et au royaume de France, mon cher Adil, la soumission est la règle, la raison l'exception. L'homme n'est plus un animal raisonnable, mais un animal vaccinable. L'homme n'est plus fait pour douter, pour interroger, mais pour se vacciner. La vaccination est nouvelle religion, ou disons nouvelle secte, car y entrer est facile, en sortir impossible. Comme un coup du sort, il fallait que le variant Micron vienne perturber le prince Macron et fasse mentir toutes les prédictions. Moins d'hospitalisation et aucune protection de la vaccination. Mais au royaume de France, sous le règne de l'empereur Macron, je vous l'ai dit, la religion, la vaccination est une religion, et gare à celui qui ne voudrait pas de culte au dieu injection. Il sera alors, comme je vais l'être dans quelques jours maintenant, confiné, isolé, n'existant plus jusqu'à ce qu'on se soumette, y compris à des injonctions qui n'existent pas encore, mais dont j'en connaîtrai la nature au moment voulu, ayant 24 heures pour obéir ou disparaître. Et si ces restrictions n'ont pas raison de ma volonté, il suffira d'en ajouter. Alors, puisqu'il s'agit de nous exclure de la société, de nous priver du droit de vivre en communauté, qu'importe, nous ferons société et nous créerons une communauté. Et dans cette communauté, mon cher Adil, nous érigerons trois règles. Et nous les inscrirons au fronton de tous les lieux de rassemblement. Liberté, égalité, fraternité. Assurément, une communauté qui nourrit de tels principes peut devenir un État et même une grande nation. Allez, je vous laisse, j'ai une communauté à fédérer dans laquelle la santé ne sera pas prise comme prétexte à l'assouvissement d'un pouvoir, où la politique sera au service de la dignité, où le culte sera voué à Dieu et non au prince, et où chaque homme aura sa place, blanc, noir, musulman, juif, catho, bouddhiste et j'en passe. Ou pas vacciné. Joyeux Noël, mon cher Adil, et à tous nos auditeurs.
Merci pour ce billet. On connaît vos signatures, mon cher maître Fabrice Divisio, désormais. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, nous ne serons pas là. On se retrouve à la rentrée avec autant de plaisir, mon cher Fabrice, mes chers maîtres.
Avec
grand plaisir partagé. Et prenez soin de vous, mon cher maître.
Passez de bonnes fêtes tous.
Merci, bonne fête de fin d'année, 19h07. Et c'était le Quoi de Neuf, et vous connaissez la signature désormais de Fabrice Divisio. Messieurs, tout de suite, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Monsieur Amin Saak est le maire adjoint de la ville de la Courneuve. Bonjour Amin Saak.
Bonjour Adil Farkan.
Toujours en forme à ce que je vois.
Très bien.
Vous venez toujours habillé en noir. C'est l'homme en noir.
Je crois que c'est...
L'homme en noir.
Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
C'est ça. Vous êtes un peu comme Thierry Ardisson, vous. Hein. Chemise noire, veste en noir, tout le temps.
Il porte le deuil de son co-débatteur. En
fait. Abdeslam Itaj, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Bonsoir. Bon, tout va bien.
Auditrice de Beurre FM.
Toujours le modem.
Vice-président. Vice-président du Modem 95.
95, absolument.
Ouais, pas d'usurpation. Je suis pas vice-président du Modem tout court.
Absolument, ouais. Tout court. Un troisième, c'est Mehdi Jaziri, qui est jeune journaliste, qui est coincé dans les transports.
Encore
visiblement. Ben, écoute, visiblement, je crois que ça galère un peu. Mais on va démarrer cette émission avec le premier sujet qui nous alerte tout de suite. Eh bien, vous savez, beaucoup se posent la question concernant ce passe vaccinal en plus, un test négatif, qui pourrait être nécessaire, vous savez, pour aller au resto, pour aller au bar, pour aller dans certains lieux, d'ailleurs d'autres lieux. Est-ce que, franchement, très honnêtement, un peu comme dit Fabrice Divisio, est-ce que ça risque pas de compliquer tout simplement notre société, Abdeslam Itaj et Amin Saak?
Alors,
il va y avoir un ras-le-bol quand même, non?
On est dans l'hypothétique, à ce jour encore, rien n'a été tranché sur ces choses-là, mais en effet, et vous avez raison...
Le gouvernement pourrait bien imposer cela. Hein.
Oui, enfin bon, on peut faire plein de plans sur la comète et pour autant on entend un petit peu tout et n'importe quoi et c'est pas pour autant que les choses sont toutes véridiques. Ce que je veux dire, c'est qu'en effet, si par malheur ça devait arriver, ça serait quand même plutôt embêtant puisque dans un premier temps on a invité les concitoyens à se vacciner, avoir ce pass sanitaire qui permet justement de pouvoir avoir une vie à peu près normale, vous comprendrez la nuance de mon propos, mais qui leur permet de partir d'aller au restaurant, au cinéma et d'essayer d'avoir une vie sociale convenable. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui avec le variant Omicron et vous savez Adil, moi j'étais au bureau tout à l'heure et j'ai commencé à prendre des chiffres concernant le développement de l'Omicron, et si vous permettez, moi je veux juste voir un petit post-it que j'ai fait.
Bien sûr,
aujourd'hui,
allez-y.
Aujourd'hui, le 24,
oui, vous êtes studieux là.
On est à 100 000 contaminés. On est à 91 000. Ce soir, à mon avis, on est
par
à
jour.
100 000. Eh bien,
par
vous
jour.
Savez, par jour. Et en fait, en Grande-Bretagne, en fait, le chiffre doublait tous les deux ou trois jours. Je suis parti sur un calcul sur trois jours. Dans trois
alors,
jours.
Alors, qu'est-ce que ça donne?
Le 27, eh bien, on sera à 200 000.
Le 27 décembre.
Oui, le 27 décembre. Le 30 décembre, on sera à 400 000.
par jour.
Le 2 janvier, on sera à 800 000. Le 5 janvier, on sera à 1 600 000. Et le 8 janvier, 3 200 000. 3 200 000 contaminés.
Par jour ?
Par jour, absolument.
Donc Omicron, il contamine tant que ça ?
Absolument. Par jour. Donc vous voyez bien ce développement qui est d'abord qui est
dans l'Hexagone.
En France, bien sûr. On aura beau faire tout ce que l'on veut, on ne pourra pas juguler. Non mais je vous le dis, ça faut l'accepter. Et d'ailleurs,
ah ben on ne sait pas. Attendez, ça c'est des chiffres
de l'OMS.
Attendez, vous lancez des projections.
Non, mais alors le calcul il est clair. Je vais vous dire une chose. Nous, on peut transposer la société britannique et la société française. On est à peu près dans la même nature de fréquentation.
Vous êtes en train de me dire avec ce calcul qu'en gros, on a besoin de ce test négatif pour accéder à tous les lieux.
Je vais vous dire une chose. Test négatif ou positif ou vaccin ou non. Dans quelques jours, dans 12 jours, on se retrouvera à 3 millions de
cents. Eh bien justement, Amin Sarr, est-ce que là, ce qu'il est en train de nous exposer, Abdeslam Itesh, n'est pas, si vous voulez, le jeu de certains, c'est-à-dire la psychose?
Non, il faut dire la vérité, Adil Farkas.
Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire la vérité.
Il faut dire la vérité.
Moi, je ne sais pas si dans 10 jours ou dans 15 jours, on sera 1 million ou 2 millions de contaminés.
On ne peut pas le savoir.
On ne le sait pas. Par ailleurs, si on a plus de contaminés, et ça c'est mathématique, c'est parce qu'on, par rapport à l'antériorité de l'épidémie, on teste plus.
D'abord, ben moi, ça me semble normal.
On a les autotests, on a les tests.
On teste plus, c'est normal qu'il y ait 200 000. Avant, on testait pas, les amis.
De fait, tous ceux qui sont qui n'avaient pas accès à un moment donné aux tests, aujourd'hui ont accès. Donc forcément, mathématiquement, on a plus de tests positifs. Mais ça n'enlève rien au fait qu'on est dans une cinquième vague, on va atteindre un pic très bientôt. Et oui, ça a été vérifié, le variant Omicron, il est plus transmissible, il est hautement contagieux, mais il n'a pas montré d'effets plus graves sur les personnes.
Ça, c'est vrai, il faut le préciser.
Il touchera beaucoup plus de personnes.
On a par ailleurs très peu de
décès. Il touche, mais il n'y a pas de décès, il n'y a pas vraiment de forme grave. Il a raison, Amin, de le souligner aussi. Hein.
Et par ailleurs, il y a une étude qui part de.
Sur les gens malades.
De ce qui a été fait, de ce qui a été observé à Johannesburg, et c'est là où on a observé les premiers cas d'Omicron, où on se rend compte que, à terme, ce variant-là va remplacer le variant Delta qui, lui, est bien plus grave. Et donc, c'est peut-être une chance, hein, je le dis vraiment avec des guillemets, c'est peut-être une chance de voir ce variant-là. Alors, prendre plus de place.
Vous savez ce que vous dites là ? C'est très important. Moi, je vais ouvrir l'antenne, le standard, 01 53 48 3000, partout en France. Et je veux entendre aussi nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils pensent comme vous ? Est-ce qu'ils pensent le contraire ? Est-ce que, bien au contraire, évidemment, il faut prendre les précautions, la vigilance, tout cela, effectivement, nous vous attendons. Juste après la pause, puis au 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant.
Salut à tous, c'est Bilal Nedman. Retrouvez-nous dans Tam Sport du lundi au vendredi, 20h-21h, pour toute l'actualité sportive.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurreFM. BeurreFM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h17, les informés, jusqu'à 20h, nous sommes ensemble. Les informés avec Abdeslam Itesh, les informés avec Amin Sarr, et enfin les informés avec le dernier qui vient de nous retrouver sur le plateau, qui était coincé dans les transports en commun. Mehdi Jaziri, jeune journaliste. Bonjour Mehdi.
Bonjour, comment ça va?
Tout va bien, et vous?
Ça va, enfin ça va pas trop, parce que je trouve que la RATP prend trop des vacances à tout moment.
C'est
ennuyeux.
Exactement, 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre aussi concernant évidemment ce qui vient d'être dit par nos débatteurs influenceurs. Je voudrais vous entendre aussi notamment Mehdi Jaziri. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce... Alors il y a deux évidemment commentaires qui se rejoignent mais qui sont très différents. Abdeslam Itesh qui nous a livré des chiffres. 100 000 aujourd'hui, 300 000 demain, et crescendo, évidemment, le chiffre va se retrouver à 3 millions, c'est ce
3, que 3 millions 6,
3 millions 6
12
de contaminés à la mi-janvier. Vous, alors, moi, j'ai tendance à dire que, effectivement, ce n'est pas scientifique, ne rentrons pas, ne cédons pas à la psychose, c'est un peu ce que dit Amin Sarr. Vous dites quoi, vous, aujourd'hui, évidemment, avec cette contamination d'Omicron, qui prend de l'ampleur, jour, tous les jours?
Bah, je dis que comme chaque année on a une vague qui arrive, généralement c'est dans la même période. Je sais pas si vous avez vu l'année dernière, c'était cette période-là. L'année d'avant c'était pareil. Je pense que c'est un peu une sale passe en fait, c'est tout. C'est un moment à passer. C'est l'hiver, donc oui, il y a une vague qui arrive, mais il faut pas infantiliser les gens non plus. Il faut au contraire avoir un discours avec eux, mais il faut pas non plus les prendre pour des bébés, pour des gamins. Aujourd'hui, on sait qu'il faut se vacciner. Il y a une minorité qui veut pas se vacciner.
6 millions. On parle de 6 millions.
Oui, 5.
C'est pas 5, une minorité, ça. 5. Enfin, c'est une minorité, si, quand on regarde.
France,
oui.
Si on regarde toute la France, c'est une minorité, mais je veux dire.
On a quand même ça, on a soit près de 80% des gens qui sont vaccinés aujourd'hui, oui. Donc.
Un peu plus, non?
Non, on doit être autour de 80, et puis après, il y a ceux qui sont exclus de la vaccination, il y a les enfants qui n'étaient pas jusqu'ici, il y a ceux qui ont des contre-indications, mais bon, il y a 5 millions de non-vaccinés. Évidemment, il faut continuer d'inciter les gens à aller se vacciner, mais comme le disait Midi, il faut pas infantiliser les gens. C'est-à-dire que les Français ont fait preuve de beaucoup de responsabilité jusqu'ici, il faut continuer de leur faire confiance.
Il faut continuer de leur faire confiance. Oui. Messieurs, juste évidemment pour clore sur j'aimerais qu'on reste juste...
Moi, si vous permettez, je voulais juste rebondir, mais que l'on prenne bien conscience des chiffres que j'ai avancés, même si ça reste de l'hypothétique, le fait est que, et je vais le redire, en Grande-Bretagne, le chiffre doublait tous les 2-3 jours. Mmh. Et que cette projection, elle n'est basée que sur ces 2-3 jours. Ce virus Omicron est hautement viral. Donc, ça apporte du crédit à mon propos. Donc, ce qu'il faut absolument, et tu as raison, il ne faut pas infantiliser les gens, et à un moment, il faut leur dire la vérité. Et dire les choses.
J'aimerais entendre le
patron de l'OMS,
0153483000, 0153483000.
Et vacciner les gens, nous n'échapperons pas au virus.
Alors, justement, tour de table, comment préparer les fêtes? Il y a le réveillon de ce soir, il y a le réveillon du 31. Comment préparer tout cela? Quelles mesures doit-on prendre, messieurs? Comment, évidemment, survivre aux fêtes de fin d'année en famille, entre amis, sans subir le clivage ou voir que les choses deviennent explosives? Amine,
au-delà de dire aux gens qu'il faut aller se vacciner, parce que bon, c'est évident, bon, là c'est un peu tard si on veut se vacciner pour les fêtes, puisqu'il faut compter au moins 7 jours avant d'avoir les effets du vaccin. Évidemment, il faut que les gens respectent les gestes barrières, la distanciation sociale, fassent preuve de responsabilité. Et moi, j'ai plutôt confiance. Je crois qu'il faut que maintenant cette période, elle serve de sas de décompression pour les Français, parce que c'est la période des fêtes, parce que c'est les vacances. Il faut qu'on arrête avec cet esprit anxiogène où on parle du matin au soir de vaccins, de virus, de contamination.
Ça devient anxiogène.
Ouais. Les Français ont besoin maintenant de faire une pause pour repartir de bon pied à la rentrée.
Mais je veux dire, ça va devenir.
Quand vous
plus,
entendez Abdeslamitage, on n'a pas le sentiment qu'on va repartir de bon pied.
Ça va devenir
Abdeslamitage.
Ça va encore pire après, parce que justement, là, le gouvernement ne peut pas nous dire faites attention ou ne faites pas. Enfin, il peut pas nous limiter en fait nos fêtes. Ça, c'est sûr et certain.
Il va y avoir un couvre-feu, non? J'ai l'impression.
Peut-être après. Après. Enfin, je veux dire, là, en fait, justement, côté oxygène, on va pas trop le donner, vu que c'est les fêtes. Il faut vendre aussi, il faut que le commerce tourne, il faut que les gens décompressent un peu. Mais on sait très bien à quoi on va s'attendre après.
On va s'attendre à quoi? Un couvre-feu?
Plus de restrictions, après lesquelles, ça, on sait pas. Peut-être qu'ils vont en inventer une nouvelle.
Le projet de loi, là, qui va être discuté prochainement en Conseil des ministres d'abord, puis en commission à l'Assemblée. Il prévoit un certain nombre de dispositifs, notamment l'élargissement des contrôles. Alors bon, ça, ils disent pas encore comment, parce que on s'est heurté à la même problématique il y a quelques mois sur le contrôle d'identité et sur le pass sanitaire. Il y a la question, et je crois que ça c'est une bonne chose, de sanctionner plus durement les fraudes au pass. Et ça c'est une bonne chose, puisque notamment ça fait partie des moyens qu'utilisent ceux qui refusent d'aller se vacciner, et donc pour une fois on tape pas sur ceux qui font preuve de responsabilité, mais plutôt sur ceux qui essayent de détourner la règle.
Mais est-ce que le tout vaccin va certainement provoquer le déclic des non vaccinés?
Non, mais une chose est sûre, c'est que
que je me pose comme question.
Moi, je préfère la prévention et d'expliquer. Et à la dernière émission que nous avions fait ensemble, il y avait eu ce témoignage glaçant de ce responsable qui, justement, ne s'était pas vacciné.
Ah, le président de la Confédération des commerces.
Et qui a fini dans le coma.
73 ans.
J'ai trouvé courageux, justement, qui tienne ses propos, pour que justement on ne soit plus dans le fantasme conspirationniste qui laisse entendre que... Et d'ailleurs, moi je voulais revenir un petit peu sur la responsabilité des réseaux sociaux. Lorsque Et je l'ai déjà dit, par ailleurs, lorsque il y a des experts, des scientifiques, des gens qui ont un bac plus 7, qui sont médecins, qui apportent un avis médical, voilà, basé sur,
minimum,
des faits.
Minimum, bac plus 7.
Oui, minimum.
Certains, c'est 15, 15 ans.
Oui, c'est beaucoup plus. C'est même une vie d'études.
Hein, moi j'en connais un pote.
Oui, il continue à chercher.
15 ans d'études.
Pas toujours, mais ce que je veux juste dire, c'est que. Et à côté de ça, opposé à ça, on a des gens qui diffusent des vidéos sur YouTube qui ne sont ni médecins, ni experts, ni rien du tout. Alors, parce que ça vient de YouTube, donc c'est forcément vrai. Et que, Adil, vous-même, vous êtes journaliste et vous savez bien que vous devez toujours sourcer les informations pour justement savoir la véracité de ce qui est dit sur cette vidéo. Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a... Tout est binaire. Le média officiel, c'est du mensonge et YouTube, c'est la vérité. Et vous voyez,
ça, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mehdi Jaziri. Non, mais ce que dit Abdeslam Itache nous interpelle.
En fait, il faut. Ça, c'est un vrai problème. Les fake news, c'est un véritable problème de société aujourd'hui, pas que par rapport au Covid. Je pense qu'en fait, c'est un business pour certaines personnes. On l'a très bien vu. Il y a des gens qui se font, excusez-moi le terme, des dents en or.
Oui.
Avec ça. Mais en fait, je pense que il faut comprendre justement que les réseaux sociaux, c'est ça le problème. C'est Facebook, Instagram, Snapchat, en fait, ces gens-là refusent de se soumettre au pays.
Oui.
Et d'instaurer de vraies lois contre ces fake news-là. Ils font leur beau discours, Mark Zuckerberg fait ses beaux discours, mais en vérité, on voit le vrai problème.
Ils parlent d'atteinte aux libertés, alors que, en fait, le contenu même est justement, on parlait de sujets anxiogènes, est anxiogène, et du coup, il crée de la peur. Et ils désinforment, et on en parlait la dernière fois, des gens qui avaient la responsabilité de leurs parents et qui ont dit à leurs parents de ne pas se vacciner.
Ça, c'est terrible. Alors ça a divisé des familles.
Aujourd'hui,
certaines familles se sont déchirées.
Ils vivront tout le reste de leur vie avec ce remords de
pas avec avoir ce remords. Mais c'est vrai, et j'en ai des exemples comme ça,
On les connaît, les tontons et les tatas qui envoient des idioties sur WhatsApp, on les connaît, on sait très bien. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire contre ça?
Et non, mais là, ce que vous dit Abdeslam Itache, Mehdi Jaziri, c'est qu'au sein d'une même famille, c'est-à-dire certains frères et sœurs disent non, on ne veut pas vacciner nos parents, et d'autres disent oui, on est pour le vaccin. Et ça crée des divisions.
Oui, bien sûr.
Et lorsque le drame arrive, effectivement. Tu vas devoir vivre avec ça.
Mais on vit dans une société qui divise le peuple, tout le monde se divise. C'est ainsi.
Le standard, je vais l'ouvrir parce que je vais entendre aussi nos auditeurs. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vais accueillir du côté de Créteil, 94. Kenza, bonsoir Kenza.
Bonsoir.
Bonsoir, je vous écoute ma chère Kenza. Kenza, alors, ça veut dire le trésor. C'est beau ça comme prénom.
Oui, c'est ça.
Oui. Je vous écoute juste, Kenza.
En prévention, j'ai mes enfants qui sont à côté et ça risque de crier.
Et c'est la fête.
On en a à la maison aussi.
Allez-y, c'est la fête sous eux. De toute façon, ils peuvent y aller.
Ok. C'est quoi la question exactement?
La question sur l'histoire du pass vaccinal, mais qui va devenir certainement, on vous le dit clairement, obligatoire, avec des tests PCR négatifs pour aller dans la resto, pour aller effectivement dans les lieux, dans certains lieux. Mais surtout aujourd'hui, comment vous vivez tout cela, ma chère Kenza? Est-ce qu'à un moment, on va pas se retrouver avec une obligation vaccinale? C'est la question qu'on se pose. Et surtout quand on voit l'ampleur que ça prend, Omicron, eh bien, il prend de l'ampleur, il contamine plus.
Ouais, exactement. Ça m'énerve parce que en fait, on parle beaucoup de contamination, mais en fait, on ne parle pas de ce qui est important lors d'une pandémie, c'est le nombre de cas graves ou de cas malades réels. Et c'est pour ça que c'est biaisé en fait quand on dit.
Pourquoi vous dites c'est biaisé? Pourquoi vous dites qu'est-ce qui est biaisé? C'est quoi qui est biaisé?
C'est biaisé parce qu'en fait, on crée de la peur avec des cas qui ne sont pas symptomatiques.
Ouais.
Et tout de suite, quand on dit 1 million de cas, etc.,
c'est ce que vous regrettez, quoi.
De faux. Ouais. Et en fait, ça fait peur à tout le monde. Les parents, ça crée des tensions, en fait. Les gens, ils ne comprennent pas qu'un cas, c'est pas forcément un cas grave. Et du coup, quand on entend 1 million, c'est tout de suite quelque chose de gravissime, alors que en fait, les personnes, elles n'ont rien.
Elles ont rien. Mais c'est vrai aussi.
Mais après, elles peuvent contaminer d'autres personnes qui peuvent avoir contaminer. Des cas graves.
Après, Kenza, ils ont raison, mais Djaziri, il vous dit, il vous répond, c'est que ces mêmes personnes peuvent contaminer, effectivement, les personnes vulnérables ou les personnes âgées. Et c'est pas faux.
Moi, si vous
Kenza, pensez... merci pour votre appel.
Merci à vous.
Et prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci, vous aussi.
Abdeslamitage.
Toute proportion gardée,
oui, vous lui répondez.
Juste préciser une chose. Un virus qui touche, admettons, 500 000 personnes aura des effets. Un virus qui touche 67 millions de personnes aura d'autres effets. Même s'il est moins virulent, il touchera beaucoup plus de personnes, donc il fera beaucoup plus de morts. Donc il ne faut pas sous-estimer ce virus en laissant entendre qu'il n'est pas létal. Il l'est pour les personnes qui, justement, souffrent de comorbidités, qui souffrent d'insuffisance respiratoire et autres. Donc il faut être responsable et dire les choses. Vous savez... à un moment, on doit avoir ce discours de vérité et arrêter de dire... Vous savez, d'ailleurs, la Chine, au premier confinement, ont menti sur les chiffres. Ils n'ont jamais donné le nombre de contaminés. Et en fait, lorsque ça arrivait en France, on a minoré. On s'est dit, ouais, bon, en Chine, il y a 50 000 contaminés, taratata. On a combien ? 1,2 milliard d'habitants. On avait des villes qui étaient complètement fermées. Ils s'étaient mis à construire des hôpitaux à tout va. Donc, il faut un discours de vérité. Il faut dire les choses. Les Français sont assez intelligents pour entendre la vérité.
Bien sûr.
Et la vérité, c'est celle-là. Et on en rediscutera. Et j'espère qu'on se retrouvera ensemble sur ce plateau dans 3 semaines. Et ces chiffres-là.
Et ça va arriver.
On gardera le replay. Et ces chiffres-là, vous verrez que.
Eh bien, justement, on va appeler un médecin tout à l'heure. Je vais le joindre. Monsieur Majid Sioussine, docteur Majid Sioussine, chef de service donc à l'hôpital Sainte-Camille. Tout de suite, c'est l'heure du Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf pour clore cette année, puisque la semaine prochaine, nous ne serons pas là, et finir la belle année avec un mini-bilan, avec celui qui signe l'Opinion Internationale, le fondateur d'Opinion Internationale. Il est également éditorialiste sur les plateaux de chaînes de télévision. Michel Thau, bonsoir.
Bonsoir, et sur Beurre FM, grâce à vous, cher Adil.
Eh bien, écoutez, bienvenue. Vous écoutons pour votre signature du Code 9 pour un mini-bilan de l'année.
Alors, en fait, je voulais vous faire un bilan de l'année, mais finalement, pour moi, le bilan, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Deux événements majeurs qui signent une année 2021, parfois bien, bien compliquée au-delà du Covid. Il devait y avoir aujourd'hui, il devait y avoir les élections présidentielles en Libye. Mmh. Et comme vous le savez, elles ont été annulées presque à la dernière minute. Et c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Libyens, mais c'est une très mauvaise nouvelle aussi pour l'Europe, pour les Français, pour l'Afrique. Mmh. Parce que la Libye, moi j'ai même fait un détour en disant la Libye est morte, la Libye n'existe plus. Parce que la Libye, c'est aujourd'hui des tribus qui s'opposent, des ingérences extérieures à non plus finir. Et effectivement, le report et en fait l'annulation définitive, à mon avis, de l'élection présidentielle en Libye, c'est très, très, très mauvaise nouvelle, notamment pour l'Europe, où il risque d'y avoir de nouveau des pressions migratoires très, très fortes par des trafiquants qui sont basés en Libye. Bon, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, et je pense que c'est le fait de l'année. Et le deuxième fait majeur que je voulais souligner, bah, ça s'est aussi passé cette semaine, c'est la confirmation que les troupes de Wagner, vous savez, cette société russe de mercenaires qui a quasiment pris le pouvoir en Centrafrique, et bah, arrive maintenant quasiment officiellement au Mali. Toute la communauté internationale s'en est émue, mais c'est un mouvement qui malheureusement est annoncé depuis des mois. La France prend du recul, se retire petit à petit du Mali. Et là, vous avez des troupes pseudo-russes. Mais enfin, la réalité, c'est que les Russes sont derrière. Ils vont certainement prendre une partie du pouvoir au Mali. Et ça aussi, je pense que c'est une nouvelle majeure qui est à mettre au bilan de cette année 2021. Mmh. Vous voyez, sur le front international, on parle beaucoup du Covid, c'est normal en France parce que il y a cette nouvelle vague, l'Omicron, non pas l'Omicron, hein, attention, l'Omicron.
Vous avez le droit à une clochette, mon cher Michel.
Voilà, carrément. Mais voilà, il y a des événements majeurs sur la scène internationale, la Libye, le Mali, et je pense que ça fait partie pour moi du bilan de cette année 2021. Mais ça ne doit pas nous empêcher de se souhaiter une bonne fête de fin d'année.
Absolument.
À vous, cher Adil, et à tous les auditeurs de Beurre FM, je tiens à le dire.
Merci infiniment. Je vous souhaite également, à mon tour, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous partez un peu quand même, Michel Thaube ?
Pour tout vous dire, je suis déjà un peu parti, mais je reviens demain soir pour aller sur sa sympathique télé. Après Beurre FM, la télé.
La télé après Beurre FM, effectivement, on vous connaît sur tous les plateaux de télévision, éditorialiste, fondateur de l'Opinion Internationale, le média en ligne. Michel Taube, je vous souhaite de passer d'excellentes fins d'année. À la rentrée avec autant de plaisir.
Avec grand plaisir, avec autant de plaisir et tous mes meilleurs voeux à tous les auditeurs de Beurre FM.
Merci à vous, 19h33, nous marquons une page pub. On se retrouve tout de suite après, justement, avec Dr Majid Soussine, parce que je voudrais l'entendre sur ces histoires-là. Un spécialiste, chef de service de l'hôpital Sainte-Camille. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Abdeslam Itach. Les informés également avec le maire adjoint de la Courneuve, monsieur Minessa. Ah, vous vous rendez compte, j'ai eu un trou. Vous allez, il va vous vouloir.
Pas du tout. Pas non,
il pas là, ils vont regarder avec des grands yeux. Mais
pas du tout.
Il sort d'où ce journaliste là? Et enfin, avec Mehdi Jaziri, jeune journaliste et vice-président du MoDem du département 95, 19h35. Continuez à nous appeler 01 53 48 3000. Comment vous préparez votre réveillon? Comment il se prépare? En famille? Comité restreint? Je vous attends au 01 53 48 3000. Et encore un dernier sujet qu'on doit traiter. Exceptionnellement. Parce que, comme on parle du pass vaccinal, comme on parle d'Omicron ou d'Omicron, justement, celui que vous connaissez, qui signe chaque mercredi le Quad 9, c'est le docteur Majid Soussine. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
Ce soir, vous êtes notre invité, mon cher docteur, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille. Je m'adresse au médecin et non pas celui qui signe le Quad 9 tous les mercredis. Mon cher docteur, alors, je dois dire que j'aimerais vous poser une ou deux questions. Et que les auditeurs se posent aussi et que les débatteurs influenceurs sont avec nous sur le plateau se posent aussi. Abdeslam Itach nous avance des chiffres. Aujourd'hui, on est à 100 000 par jour de contaminés. À la mi-janvier, nous serons avec un chiffre, c'est des projections, hein, évidemment complètement hypothétiques, hein, vers les 3 millions. Alors, est-ce que il s'agit de faire peur aux gens? Est-ce qu'il s'agit de les sensibiliser? Est-ce que c'est des chiffres scientifiquement qui sont prouvés, avérés, puisque tous les jours, évidemment, les contaminations augmentent? Comment vous voyez les choses, mon cher médecin, mon cher docteur?
Non, moi, je crois d'ailleurs que, d'une part, que faire peur aux gens, ça ne sert à rien, parce que les gens n'ont plus peur, ils sont tellement blasés et lassés. Je pense qu'il faut leur expliquer et qu'il faut les sensibiliser, plutôt, ça c'est plus intéressant. À l'évidence, le Covid galope, on le constate sur le terrain, chacun a dans son entourage plus qu'une personne qui sont contaminées.
Dans votre donc, service, même... vous, dans votre service, je sais que vous êtes de garde là, vous allez être évidemment, vraiment, vous allez être de plein pied affronté évidemment ce qui va arriver. Comment s'annoncent évidemment les services d'urgence dans votre hôpital?
C'est une catastrophe, c'est une catastrophe absolue. On est en train de jongler pour faire rentrer Paris dans une bouteille avec un chausse-pied. Il n'y a plus assez de lits. Le problème qui se pose aussi, c'est les soignants, les personnels de santé qui se contaminent, ce qui fait qu'ils deviennent indisponibles pour travailler. Vous imaginez ce que ça veut dire que de chercher des gens pour travailler alors qu'on est déjà dans une pénurie de personnel. Je vous donne un exemple. Chez nous, l'un des médecins qui devait être de garde ce soir aux urgences est Covid positif avec des symptômes. Il ne peut pas travailler. On a trouvé quelqu'un pour remplacer en urgence le soir du 24 décembre. Donc, force à tous ceux qui travaillent et qui sont sur le pont. C'est pas évident.
Ah oui.
Je sais que les Français pensent à s'amuser et c'est normal parce que s'amuser, ça fait partie de la vie et c'est normal. Mais il faut s'amuser responsablement et faire attention à ce que les choses ne nous débordent pas plus que...
Vous dites qu'il faut être responsable. Vous m'aviez raconté un cas de figure qui est évidemment, tout à l'heure, on avait échangé au téléphone. J'aimerais beaucoup qu'on la partage avec nos auditeurs qui nous écoutent partout en France, parce que j'aimerais aussi que les auditeurs comprennent, lorsqu'ils vont rendre visite à un membre de leur famille, qu'ils prennent des précautions lorsqu'ils ne savent même pas qu'ils sont covidés eux-mêmes. Hein. Ce monsieur de 80 ans et un petit-fils ou son fils qui vient lui rendre visite et qui le contamine sans le savoir.
Tout à fait, exactement. Les visites étaient interdites pendant longtemps dans les hôpitaux, on nous l'a reproché. On les a réouvertes parce que c'est normal, c'est humain, mais malheureusement, ça impose un certain nombre de risques et l'histoire que vous racontez est tout à fait vraie. Je l'ai vécu hier avec quelqu'un qui est venu voir son parent à l'hôpital, un monsieur âgé qui était hospitalisé, qui est resté avec lui 15 minutes et qui nous a rappelé pour lui dire « Je suis désolé, mais je viens de faire un test et je suis positif. » Et malheureusement, son parent, 4 jours plus tard, est positif lui aussi et est transféré de l'unité conventionnelle à l'unité Covid.
Ouais, c'est terrible, effectivement.
C'est extrêmement contagieux. on répète le mot geste barrière. Moi, j'aime pas le mot barrière, mais c'est les gestes de distanciation. Il faut bien les respecter, surtout vis-à-vis de ceux qui sont les plus fragiles, parce que parfois, ça peut avoir des conséquences qui sont catastrophiques. Et pour 5 minutes de plaisir, on peut avoir des semaines, voire des mois de larmes.
Alors, je sais que, évidemment, vous êtes en ce moment même à l'hôpital. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs pour ces fêtes de fin d'année? Quelles précautions doit-on prendre, docteur Sioucine?
Je pense qu'il faut essayer de garder tant que faire. Alors, pour ceux qui le peuvent, et je pense que beaucoup de gens l'ont fait vu la queue devant les pharmacies et les laboratoires, il faut se tester avant de se réunir en famille. Toute personne qui n'est pas vaccinée et qui a le moindre symptôme le doit considérer jusqu'à preuve du contraire qu'il est affecté du Covid. Même un test séro-négatif, un test réalisé en pharmacie, je ne suis pas sûr que c'est une très grande valeur. En revanche, quelqu'un qui a fait ses 2 doses, voire ses 3 doses depuis plus d'une semaine, on peut penser qu'il est quand même relativement bien protégé. Il faut essayer de ne pas être trop concentré dans un petit espace. C'est tentant de se rassembler en famille, avec des familles nombreuses parfois, mais si l'espace est très restreint, il faut bien aérer, essayer de garder le plus possible les distances et être raisonnable. Ne prendre aucun risque est quand même un peu plus sage.
Oui.
Dans un contexte qui est fortement épidémique, et ce qu'on constate quand même avec une netteté évidente, c'est que Omicron est extrêmement contagieux. Et il monte en flèche.
Et il monte en flèche. Est-ce que les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure, c'est des chiffres qui sont réels?
Oui, on a bien vu la montée en puissance progressive du nombre de malades affectés.
Donc vous êtes sur le pied de guerre ce soir, mon cher docteur.
Je ne suis pas le seul. Je crois que tous les gens qui travaillent dans le secteur de la santé sont sur le pied de guerre et qui sont fatigués. Là, on va être dans une période très difficile parce que c'est la période de Noël. On est dans des hôpitaux dont une partie des lits sont fermés faute de personnel. Et où les lits ferment traditionnellement à Noël pour que certains puissent se reposer. Si vous ajoutez un afflux massif de malades avec des soignants qui s'infectent, on a réuni tous les ingrédients pour que tout explose, sachant qu'on est en phase pré-épidémique pour la grippe aussi, qu'on a un peu oublié mais qui revient. Et donc si on devait avoir à faire face à une association grippe plus Covid, je ne sais pas ce que ça va donner.
Eh bien merci mon cher docteur Majid Sioucine, vous êtes chef de service à l'hôpital Sainte-Camille à Bry-sur-Marne. Merci d'avoir été avec nous et franchement je vous dis respect et bon courage pour ce soir. Et
bon
bravo. Et bravo aussi à vos collègues. Merci docteur Sioucine. C'est très clair, le docteur il est très clair là-dessus.
Non, mais c'est bien sûr, c'est clair.
Voilà.
On le dira
c'est un médecin qui parle, c'est un scientifique.
On ne le dira jamais assez. On n'est pas sorti encore de cette épidémie. Il faut continuer de se vacciner, de se tester, de respecter les gestes barrières. Mais en même temps, le docteur l'a dit, il ne faut pas non plus tomber dans la psychose et dans
il a commencé par ça.
Et j'ai l'impression quand même que ça, c'est en train de justifier et c'est insupportable des décisions qui sont de plus en plus accélérées. On nous annonce quand même un texte qui va être discuté dans 3 jours, qui pourrait entrer en vigueur d'ici la mi-janvier. C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux.
Il faut que on retrouve un petit peu de droit commun dans tout ça, quoi.
Mehdi Jazeri, on passe au dernier sujet qui a retenu notre attention.
Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de faire des amalgames avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à risque, des gens qui ont les personnes âgées ou les personnes qui ont des comorbidités. Je pense que c'est ces gens-là sur lesquels il faut s'axer. Je veux dire, au bout d'un moment, j'ai 19 ans par exemple, je vais aller dans un bar. Je chope le Covid très bien, mais j'ai moins de chances d'avoir des cas graves qu'une personne âgée ou qu'une personne avec des comorbidités.
Complètement.
Donc en fait, qui est-ce qu'il faut vraiment protéger? Qui est-ce qu'il faut vraiment restreindre? C'est ça la question. Je sais qu'il y a eu un débat là-dessus l'année dernière de qui est-ce qu'il fallait essayer de confiner seulement les personnes âgées et les personnes à risque. Moi, je pense que oui, il faudrait y réfléchir. Au bout d'un moment, parce que les gens vont lâcher prise. En fait, soit tout le monde va lâcher prise, soit on laisse les gens vivre. En fait, il faut trouver un entre-deux. Je pense que le meilleur entre-deux, c'est justement de prendre les personnes à risque et leur dire écoutez, désolé, mais on vous protège.
Voilà. C'est une discussion qui revient souvent, mais c'est difficile à porter politiquement.
Il faut des choix forts, je pense.
Tu as raison.
Abdeslamitash.
Justement, tu prenais l'exemple, tu as 19 ans, tu te rends dans un pub, tu es contaminé, mais la suite de l'histoire, c'est tu vas aller voir tes grands-parents.
Oui. Mais justement, il faut pas que je les voie. En fait,
si vous faites tester.
Justement, il faut
aller les voir, mais il faut se faire tester.
Ce qu'il faut, c'est de la responsabilité pour les personnes qui ne risquent pas d'avoir des graves.
De pas aller les voir.
Pardon ?
Non, vous vous faites tester, vous allez les voir.
Non, mais que je me fasse tester ou non, je veux dire, si jamais je suis à risque d'avoir le Covid, bien évidemment, je vais pas aller les voir. Voilà, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse des tests au préalable. Voilà, ça c'est de la responsabilité. Mais en revanche, moi je parle de restrictions. Les restrictions sur qui il faut les mettre. Vous disiez que c'était difficile politiquement. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est difficile.
Vous adressez Aminsa.
Aminsa, oui. C'est compliqué. Mais je pense que c'est des choix forts qui vont nous sortir de cette crise. C'est pas les excusez-moi le terme, les choix de tapette qu'on
les choix de tapette.
Voilà. Non, mais sérieusement.
Attention, voilà, vous avez le droit à la sonnette. Hein. Faut pas dire ces propos-là.
Il faut dire les choses comme elles sont.
Faut pas dire ça sur l'antenne.
Je trouve que
le CSA va vous tomber dessus.
La prévention, non, c'est bon.
Alors, Abdeslam Itach.
Moi, je vais être un petit peu dur avec les gens qui ne sont pas vaccinés. Vous savez, qui prônent le droit à la liberté d'être vacciné ou non, mais la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et à partir du moment où subitement vos parents, qui sont âgés, se retrouvent exposés à des gens qui travaillent dans un milieu où il y a de l'accueil du public et qui ont fait le choix de ne pas se vacciner et qui, in fine, contaminent vos parents.
Mais c'est aussi le manque
faut
de
qu'on
clarté.
Avance, messieurs.
Vous voyez, c'est le manque de clarté du gouvernement.
Allez, on doit avancer, messieurs.
Et la clarté à tous les niveaux, j'ai envie de dire.
On doit avancer, messieurs, les 19h44. Il nous reste quelques minutes. Dans autre sujet, évidemment, on change de domaine. On va aborder un peu la politique dans un marché de Noël à Saint-Denis. Un hôpital et puis une sorte d'hébergement. Ça, c'était SRJ. Christiane Taubira qui a mené une campagne éclair du samedi 18 au mardi 21 décembre. Alors, est-ce qu'elle a pu mesurer sa popularité? La question, je vous la pose. Est-ce qu'elle peut considérer aujourd'hui qu'elle a la cote? Abdeslam Itach.
Alors, moi, j'adore beaucoup cette femme.
Est-ce qu'elle a la cote?
J'adore beaucoup cette femme. Elle est. Sa cause est louable, mais malheureusement, face à des gens comme Mélenchon, qui sont.
Des poids lourds.
Qui sont d'un égo. Démesurés ne céderont jamais leur place, justement pour une gauche rassemblée autour d'un ou d'une candidate. Donc c'est selon Mélenchon, c'est moi ou le chaos. Donc je pense que la gauche justement est dans une impasse et que Christiane Taubira n'arrivera pas justement à rassembler cette gauche là. C'est juste pas possible.
Moi j'aurais dit le contraire, mais bon.
Franchement, on en rediscutera pareil dans 3 semaines dans le podcast.
Bon,
mais non, j'y crois pas un instant.
Vous y croyez pas un instant, Mehdi Jaziri.
Moi, je pense que, encore une fois, je vais vous dire la même chose que la semaine dernière, c'est trop tôt encore pour le savoir.
Bah,
je vais dire,
si, on a quand même une idée, quand même.
C'est beaucoup trop tôt. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut voir déjà quel candidat. Est-ce qu'il y a des candidats qui vont changer d'avis? Je ne parle pas de Mélenchon. Mélenchon, c'est très bien qu'il n'a jamais changé d'avis. Mais je parle peut-être que Hidalgo va forcément se ranger derrière Taubira. Peut-être que Jadot va se dire au bout d'un moment, ah mince, je vais essayer de porter le côté écolo.
Mais croyez-moi que si les sondages la propulsent à 10-15%, Hidalgo, elle n'aura pas le choix que de dire. Christiane Taubira, qui va.
Les sondages vont la propulser là. Et puis les sondages, on s'est posé la question la semaine dernière.
Tout est possible.
On s'est posé la question la semaine dernière des sondages. Est-ce qu'en vérité, il fonctionne?
Je vais vous dire.
Je vais entendre l'homme de gauche aussi.
Et ensuite, on écoutera Amine et je l'écouterai religieusement. Il n'y a aucun problème. juste une chose. Aujourd'hui, les partis de gauche jouent leur survie. Et ils le savent très bien. Le Parti communiste, à l'époque, en 81, lorsqu'il ne présente pas de candidat, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est la mort du Parti communiste français.
Ouais.
Alors que c'était un parti qui était incontournable, qui faisait 30%, mais vraiment énorme. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, derrière Annick Jadot, veut continuer à exister. Il ne veut plus exister sous l'ombre du Parti socialiste, comme ça l'a été pendant très longtemps. Les communistes présentent leur candidat. Même s'il fera 1%, ils le présenteront quand même. Et je vous prends l'exemple du Parti socialiste, qui du coup, et je l'ai déjà dit ici, même à cette antenne, qui joue ou sa mort.
C'est vrai.
Ça veut dire que s'ils font moins de 5%, ils sont morts. Et s'ils ne présentent pas de candidat, ils sont morts. Donc vous voyez, on est dans une impasse. Et Mélenchon,
c'est pour ça qu'il faut se rassembler.
Et Mélenchon qui est juste là pour justement rassembler autour de lui, sinon rien. Et je vais vous dire, quand Mélenchon, en fait, se rapproche à l'époque du Front de Gauche du Parti communiste français, ça n'était uniquement que pour le vampiriser. Donc vous voyez, même le Parti communiste français n'a pas confiance en Mélenchon. Donc comment est-ce que vous voulez construire justement
c'est
une
terrible.
Unité de gauche?
Mais
je serais très curieux. Et du coup, je vais écouter Amine sur sa théorie justement du
rassemblement. Quand pense l'homme de gauche et le maire adjoint justement de la popularité de Christiane Taubira dans les quartiers populaires?
Bon, moi j'ai en main un des sondages, enfin le dernier sondage de
7%.
Cluster 17,
oui, c'est ça.
Qui est sorti il y a quelques jours et qui justement place Christiane Taubira à 7%. Juste derrière, à gauche, juste derrière Jean-Luc Mélenchon. Bon, à peine quelques jours de son annonce, qui n'était même pas une annonce, puisqu'elle a parlé d'envisager une candidature, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est que pour la première fois, la gauche cumule 31% dans ce sondage.
Exact.
Jamais on n'avait atteint cela. Et je crois qu'il y a mécaniquement dans ce sondage, avec l'arrivée de Christiane Taubira, une baisse mécanique d'Emmanuel Macron qui caracolait en tête à 24, 25, 26% et qui est aujourd'hui à 20%. Donc ça veut dire que Christiane Taubira, elle ne parle pas uniquement à la gauche, elle parle aussi à une certaine idée de la France plutôt au centre-gauche. Donc ça, c'est la deuxième chose. Enfin, Christiane Taubira, c'est quelqu'un de très suivi sur les réseaux sociaux. C'est une des femmes politiques les mieux suivies sur les réseaux sociaux.
Et elle a la cote,
cumule des milliers de followers. Donc ça, c'est la première chose. Depuis son annonce, des collectifs spontanément se sont regroupés pour justement commencer à créer les conditions d'une campagne présidentielle. Il y en avait qui étaient antérieures à son annonce, mais voilà, on voit bien que cette annonce, elle crée quand même un certain engouement, je l'ai déjà dit la semaine dernière, et je crois que depuis cette annonce, elle a fait trois déplacements, un à Saint-Denis, l'autre à Vierzon et le troisième à Cergy, qui était plutôt réussi.
Un succès. Hein.
Voilà, elle a commencé à distiller un certain nombre de messages. Bon, on verra comment les choses vont se concrétiser dans les jours prochains. Mais bon, on voit bien quand rien que son annonce sur les réseaux sociaux a fait déjà plus de 2 millions de vues, ce qui est quand même pas rien. Elle est quelque part un peu le pendant de Jean-Luc Mélenchon, qui est très présent sur les réseaux sociaux.
Le pendant, c'est pas mal ça.
Sur les réseaux sociaux, et qui donc, voilà, il voit à mon avis en Christiane Taubira un challenger de poids.
Ah, vous l'avez écouté religieusement.
Non mais
sans le couper
complètement. Et moi-même,
c'est bien étudié. Analyse, Amine Sarr.
Moi-même qui suis centriste, j'ai commencé en préambule en disant j'étais séduit par cette femme et cette femme qui est centre gauche, parti radical de gauche. Donc et en effet, mais malheureusement pour elle, malheureusement pour la France, elle ne sera pas en capacité de rassembler. Non pas parce qu'elle n'a pas les qualités, loin de là mon propos, mais parce que des gens comme Mélenchon ne laisseront pas.
Moi, je crois qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Mais on en discutera.
La campagne n'est pas terminée. On a eu beaucoup de rebondissements.
Elle n'a même pas commencé.
Elle ne fait que commencer.
J'adore votre
optimisme. Et je crains qu'il se passe encore beaucoup.
Qu'est-ce que vous adorez, vous? Vous adorez quoi? Il a droit à une clochette. Vous adorez quoi?
J'adore votre optimisme et votre.
Mais il a raison d'être optimiste. C'est normal. C'est ce qui anime sa vie politique.
À côté de l'optimisme, je pense qu'il faut être réaliste.
Oui, il faut être réaliste.
Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous avez honte? Vous dites à des
slamitaires? Je suis parfaitement réaliste. Je le dis depuis des semaines, depuis des mois. Même plus que ça, la gauche est en miettes, elle est dispersée, elle aura du mal
à aller au bout et
elle joue sa survie en effet. Mmh. Mais moi je vous le dis, à quelques mois de l'élection présidentielle en 2017, personne ne voyait Emmanuel Macron à la tête de ce pays. Non, et pourtant,
la
c'est
gauche
le
sait que 2022 sera pas pour elle.
Vous pensez vraiment que Christiane Taubira va réussir à rassembler la gauche?
Je n'en sais rien. À ce stade, je n'en sais rien. Je dis qu'il peut se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui et le 20 avril 2022. Et qu'il faut, et j'ai envie juste de dire une chose. L'idée de la gauche, c'est pas de rassembler des hommes et des femmes, avec tous leurs égaux. L'idée de la gauche, c'est de rassembler d'abord les Français. Les électeurs.
Faut que la gauche soit rassemblée pour rassembler les gens.
Faut que la maison commune de gauche soit déjà rassemblée.
Mais si l'image de la gauche est un mouvement qui ne rassemble pas, ne rassemble pas lui-même, comment ça va rassembler les Français?
Mais moi je pense que ces élections sont perdues pour la gauche.
Je pense que ces élections sont déjà perdues.
Ils sont tellement intelligents qu'ils votent plus à gauche.
Il a peut-être pas tort. Christiane Taubira va peut-être venir changer la donne.
Je suis réaliste. La situation n'est pas en notre faveur. Je le dis, je le répète. Mais j'ose quand même espérer que Christiane Taubira peut créer les conditions d'un rassemblement,
et
peut-être
voilà,
qu'il n'ira pas au bout et qu'il ne fera pas gagner la gauche.
Je voudrais juste finir là-dessus. Je vais finir mon propos. Moi, je vais vous dire, je pense que Christiane Taubira a apporté quelque chose de nouveau à la gauche, mais que la gauche, en fait, ce qui va changer la gauche, c'est vraiment ces élections présidentielles.
Mais je crois qu'elle est
excusez-moi
le point
terme,
d'équilibre.
C'est le fait de se casser la gueule cette année qu'ils vont réussir à justement se relever après. J'espère.
Et bon, on en discute à la rentrée. Merci à vous, Mehdi Jaziri. Merci Amine, jeune journaliste.
Merci Amine Sarr. Et puis bonne fête à tous. Et puis
merci au vice-président du Modem de 95.
Je suis aussi journaliste. J'ai ma carte de presse.
C'est vrai, c'est moi aussi. Bonne fête, messieurs.
Bonne fête.
J'ai envie de vous dire
aux auditeurs également. Et une pensée pour ceux qui sont isolés.
Prudence, vigilance. À tous nos amis auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prudence à vous. Soyez vigilants quand même tout de même. Respectez, comme l'a dit le médecin tout à l'heure, Dr Majid Soussine, voilà, les gestes, la distanciation, tout cela.
On se teste.
On se lave régulièrement les mains avec le gel ou le savon. Et aussi le masque, on le maintient pour les personnes qui sont les plus fragiles. À la réalisation, c'était Giovanni. Je vous dis pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous prenons quelques jours de repos pour mieux venir, évidemment, pour la rentrée prochaine, en janvier, évidemment, pour affronter cette campagne présidentielle qui risque d'être dense, mais à la fois aussi passionnante. Messieurs, prenez soin de vous. À la rentrée, c'est le rendez-vous à prendre note tout de suite d'ores et déjà. Bonne fête de fin d'année. Je vous embrasse. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.